Nous sommes anonymes, nous sommes dans l'ombre. Les sous-bassements sont nos refuges, ils seront vos tombes. Du formol ou de la putréfaction, le capitaliste n'est que la chair. Nous en serons les lombrics obèses. Ni oubli ni pardon. www.libradio.org. La radio de la fosse et de l'abîme.
Voilà, nous sommes donc en direct et en public depuis le Silure. Et effectivement, on me le rappelle, c'est le mois FM. Ça veut dire que pendant tout ce mois de mars, eh bien, les émissions de Fréquence Balade seront sur le web, bien entendu, sur la DAB, certainement, mais également sur la FM. Et Gaël, tu vas m'aider en dernière minute parce que je l'ai noté quelque part, mais c'est 101.7. Pour Genève, 101.7. Et pour Lausanne, eh bien, on le dira un petit peu plus tard. Parce que, voilà, quoi. Donc, c'est le mois FM. On est ravis d'être vraiment là, tous azimuts, sur la bande FM, la DAB et le web. Alors, nous, normalement, recevons maintenant par Skype, par Framatalk, plus précisément, Martin Barzilai, qui est un auteur avec lequel on va parler. Martin, est-ce que tu nous entends ?
Je vous entends. Bravo d'être tout azimut.
Je te remercie. Oui, parce que tu sais, la FM est extrêmement chère et en Suisse, les petites radios libres n'ont vraiment aucune aide. Donc effectivement, on n'a pas de sous, on fait avec des bouts de ficelle. Et alors, un mois par an, on peut arriver à s'insinuer sur les ondes. Alors on en profite, t'imagines bien. Martin, bienvenue. Martin Barzilai, est-ce que je prononce bien ton nom ?
Parfaitement, bravo. Super, aussi. Merci de me recevoir.
Et écoute, c'est avec un grand plaisir. Alors, tu es là parce que tu es l'auteur d'un livre qui sort en ce moment, publié aux éditions Libertalia et qui s'appelle Refusnik.
Exactement.
Alors, si tu es d'accord, est-ce qu'on ferait en deux temps, peut-être que déjà je te laisserai peut-être te présenter toi, dire ce que tu as envie de dire de ta propre personne, et puis ensuite nous allons parler bien entendu du livre. Peut-être sans plus attendre, dire quelques mots de ce que signifie le substantif Refusnik, que contient-il ?
Alors, au départ, le mot refusnik, c'est un mot russe qui désigne les juifs qu'on n'a pas voulu laisser sortir d'Union soviétique à l'époque. Et ça a été repris pour désigner les personnes qui refusent de faire leur service militaire, sachant que le service militaire en Israël est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes, et d'une durée de 3 ans pour les hommes et d'une durée de 2 ans pour les femmes. Il y a plusieurs catégories de refus, les refusniks désignant à la base les gens qui refusent pour des raisons politiques. Mais dans mon livre, j'ai tenu à, parler d'autres types de refus dont on peut parler maintenant ou plus tard, comme vous voulez.
Oui, alors peut-être qu'avant ça, si tu es d'accord, peut-être que tu te présentes toi-même ta trajectoire, ton parcours et ce qui t'a amené à ce sujet-là, qui est quand même un sujet particulier.
Alors, ma trajectoire, mon parcours, disons que je suis photographe, photojournaliste à la base. J'ai travaillé sur pas mal de sujets liés à l'environnement, aux problèmes sociaux. J'ai travaillé avec une coopérative de photographes en Argentine qui s'appelle Soub. Ça fait maintenant un bon nombre d'années que je travaille dans la photo, dans le photojournalisme. Et ce qui m'a amené que j'ai commencé ce travail sur les refusniks. Au départ, c'est l'idée de montrer les opposants du côté israélien à la colonisation, et en particulier à ce moment-là, donc c'était vers 2008, à la construction du mur de séparation entre la Cisjordanie et le territoire israélien. Donc au départ, il y avait plusieurs choses. Une chose, c'est que d'un côté, on reçoit en Europe un bon nombre d'images violentes des exactions de l'armée israélienne contre les Palestiniens, et faites en général par des militants ou par des photographes sur place. J'avais eu l'occasion de rencontrer un collectif de photographes qui s'appelle Active Stills sur place, et qui faisait très bien ce travail-là, entre autres. Son hebdomadaire, ils allaient dans les manifestations en Cisjordanie, dans deux villages, à l'époque, Bilin et Nilin,
oui.
Où il y a des manifestations contre la construction de ce mur. Et donc, toutes les semaines, ils allaient là-bas disons, dénoncer la répression de l'armée israélienne contre les villageois. Et ensuite, il collait ces photos dans les rues de Tel Aviv, sachant que la majorité d'Israéliens refusent de regarder en Cisjordanie. Et donc, du coup, c'était assez intéressant leur travail. Donc, eux faisant ça déjà au quotidien, comment amener ça en Europe de façon plus, disons, que ça puisse à la fois parler un peu de la même chose, mais que ça puisse entrer de façon moins frontale qu'avec des photos qui montrent des violences. Parce qu'aussi, les photos de violence, quand c'est à distance, ça peut, disons, on finit par être un petit peu, comment dire, vacciné. Enfin, on finit par la violence sur les images, on finit par s'en foutre, si vous me permettez.
Ouais, tout à fait.
Voilà. Donc, en fait, du coup, des portraits, des photos, des portraits, des interviews d'Israéliens qui s'opposent à ce mur, ou en tout cas à cette politique coloniale. Au départ, c'était ça mon idée. Pour montrer aussi que il y a aussi, enfin que Israël n'est pas, les habitants d'Israël et les Israéliens ne pensent pas tous pareil, et qu'il y a aussi des gens, voilà, qui ont un cerveau et qui s'opposent à la politique de leur pays. Donc ça aussi, ça entraînait aussi, enfin pour moi l'intérêt c'était que ça entraînait forcément des réflexions sur ce que c'est que le militarisme et du coup l'antimilitarisme. Ça c'était l'idée de base en 2008-2009.
Ok. Dis-moi, justement, j'allais t'interroger à ce propos. Comment les réfugiés sont-ils perçus dans la société israélienne? J'imagine que les opinions sont extrêmement tranchées.
Ouais, alors, disons, je sais pas, ceux qui suivent un peu ce qui se passe là-bas ont remarqué que depuis quelques années, globalement, la population israélienne vote de plus en plus à droite. Et donc, du coup, les gens qui refusent de faire l'armée sont vus de plus en plus comme des pestiférés, comme des traîtres. Ils subissent sur les réseaux sociaux des insultes. Voilà, c'est vraiment pour la majorité d'Israéliens, ceux qui refusent de faire l'armée, ils sont très très mal vus, quoi. Alors bon, il y a quand même encore un soutien de la part de certains intellectuels, d'une frange de la société qui se situe en général plutôt à gauche. Donc voilà, en gros, ils sont de plus en plus mal vus, et c'est vraiment difficile pour eux souvent. Bon, bah, dans la société, ça veut dire des difficultés à trouver du travail, ça veut dire aussi des difficultés au sein même de son cercle d'amis, parce qu'il faut bien voir, quand on refuse, on a 18 ans, tous les autres choisissent de faire l'armée. Du coup, quand ils ont des permissions, ils se retrouvent, et de quoi ils parlent? De leur
Évidemment.
service militaire. Donc si on ne l'a pas fait, on est aussi exclu de son cercle d'amis lycéens, disons. Et puis la famille aussi. Donc, vraiment, c'est pas évident. D'un autre côté, si on a un bagage, disons, un peu d'étudiants un peu formés, qu'on a des bonnes notes, etc., qu'on arrive à faire des études, on peut aussi arriver à travailler avec des ONG qui défendent les droits de l'homme, etc. Donc ça peut être à la fois globalement très difficile, et en même temps, ça peut aussi être un marchepied pour travailler dans certaines ONG, disons.
D'accord. Toi, donc, c'est quand même 10 ans d'enquête que tu as réunis dans ce livre.
Alors, je veux pas non plus amoindrir, n'est-ce pas, mon travail, mais j'ai pas fait que ça en 10 ans, hein.
Bien sûr, j'imagine.
Il y a eu des pauses.
Oui.
J'y suis allé, j'ai fait un voyage. Le premier voyage, je l'ai fait en 2008. Ensuite, j'y suis retourné en 2009. Ensuite, je suis allé en Argentine. Donc là, il y a une pause. Et puis, il y a eu une attaque contre Gaza en 2014. Et là, Mediapart m'a proposé de diffuser le sujet. Du coup, m'a demandé de recontacter par mail, j'étais à Buenos Aires, toutes ces personnes. Donc, c'est chose que j'ai faite, et donc certains m'ont répondu. Donc j'ai intégré ces morceaux d'interview dans ce qui a été publié sur Mediapart, et aussi dans le livre. Et puis j'y suis retourné en 2016-2017, et là j'ai réinterviewé les mêmes personnes. 2008-2009, j'avais à peu près 25 témoignages. Et là, aujourd'hui, dans le livre, il y en a une cinquantaine. Et certaines, enfin, il y a certaines interviews où c'est, disons, Moi, ça a été intéressant de voir le parcours. C'est-à-dire, par exemple, j'ai interviewé en 2009 une personne qui allait aller en prison, parce qu'évidemment, quand on refuse de faire l'armée, dans les majorités des cas, on fait un passage pratiquement obligé par la prison. Et donc, elle me raconte, elle a 18 ans, c'est une adolescente en fait, et elle me dit, je l'ai pas encore dit à ma mère que j'allais en prison. Et puis donc, en 2014, elle répond pas à mes mails. Et je la retrouve en 2016, et là c'est devenu une adulte. Donc son regard sur son refus, même si elle le renie pas du tout, a forcément changé. Elle tire aussi des conclusions sur son séjour en prison. Donc ça c'était une partie qui était assez intéressante. Et puis aussi, finalement, il y a toute forme de refus. Et puis il y a des gens qui ont refusé dans les années 80 que j'ai réussi à interviewer. Et qui ont refusé, par exemple, uniquement d'aller au Liban. Quand il y a eu l'invasion du Liban en 82, il y a eu une vague de refus particulièrement importante. Et donc, en fait, donc c'était intéressant aussi de voir ces témoignages et du coup d'avoir une vision un peu historique finalement du refus en Israël. Et il y a aussi des gens qui ont même refusé avant le premier, enfin le, disons le personnage le plus vieux hein, que j'ai interviewé a refusé en 71, je crois.
Donc ça, on peut dire que 71, c'est le moment où on recense le premier a priori refusnik.
Oui, enfin, si ça se trouve, il y en a eu avant, il y en a eu forcément avant, parce que bon, comme j'expliquais tout au début, il y a des refus pour des raisons qui ne sont
Tout
pas
à fait.
politiques. Alors, on recense ce premier refus pour raisons politiques. En 71, mais il y a forcément des gens qui ont refusé pour des questions plus sociétales ou économiques, socio-économiques, sans doute avant. Parce qu'il faut savoir que la paye de soldats a toujours été très bas. Par exemple, si on est agriculteur, parce que simplement, il y a toute une frange de la population en Israël, ça permet de parler de ça aussi, ce livre. Il y a toute une frange de la population juive, en fait, hein, donc qui est appelée à faire son service militaire, qui vit dans des conditions, enfin voilà, qui sont pauvres. Donc il y a énormément de raisons de refuser, et effectivement, toujours parce qu'il y a de la propagande autour, et aussi parce qu'il y a des raisons éthiques, humanitaires, autour de ces refus politiques. On parle plus des refus politiques.
D'accord, ouais. Dis-moi, est-ce que c'est un sujet extrêmement tabou en Israël ou est-ce que la société civile, artistique, culturelle s'est emparée un peu du sujet? Je pense à des cinéastes comme Amos Gitai ou d'autres collectifs, les anarchistes contre le mur. Enfin, il y a quand même une résistance en Israël. Et est-ce que la société a, d'une certaine manière, métabolise le phénomène réfusnik et en parle d'une autre manière aussi?
Alors, évidemment, bon, les anarchistes contre le mur, c'est un peu à part. C'est d'ailleurs par là, en fait, que je me suis intéressé à l'opposition, disons, à l'intérieur d'Israël. Au départ, c'était ces personnes-là que je voulais rencontrer. Après, au niveau plus général de la société israélienne, il y a effectivement des groupes d'intellectuels qui essayent un peu de parler de ce sujet. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est par exemple, il y a eu à la Cinémathèque de Tel Aviv, quand j'y étais, donc c'était en 2016, un débat, un espèce de colloque sur le libre arbitre et disons, donc voilà, le refus de l'armée ou pas. Pour donner un exemple de la pression qui s'exerce sur cette communauté, on pourrait dire, de pensée, la ministre de la Culture a menacé de couper les subventions à la Cinémathèque suite à ce congrès, à ce colloque qu'il y a eu avec la présence de plusieurs refusniks. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta
Oui,
question.
complètement. Ça veut dire que c'est quand même un sujet extrêmement brûlant, hein, encore actuellement.
En fait, souvent on me demande, là ça fait je commence à être un petit peu rodé dans la présentation de mon livre parce que
Oui.
j'ai fait quelques rencontres et souvent on me demande si il y a une organisation qui les soutient, s'il y a une ONG ou même une structure. Et en fait, il y en a tout simplement parce que en Israël, c'est interdit de faire la promotion
Oui.
de refuser l'armée.
Bien
Donc,
entendu.
il y a
Oui.
des groupes qui se réunissent de personnes qui ont refusé de faire l'armée ou qui vont refuser de faire l'armée. Mais c'est des groupes informels qui n'ont pas forcément un nom ou disons une structure bien connue, disons.
Ouais. Et puis j'imagine qu'effectivement ces personnes-là sont marquées du sceau d'infamie puisque la société israélienne étant évidemment tout le monde étant garçon et fille astreint à cet exercice hein, du service militaire, eh bien je pense que les refusniks sont très rapidement identifiés et d'une manière pérenne, j'imagine. On sait qui et on sait comment et on sait quand.
Voilà, donc oui, effectivement, le truc en fait, c'est que c'est un tout petit pays. Il faut pas oublier que Israël, c'est 7 millions d'habitants, que parmi ces 7 millions, il y a quand même 20% de ce qu'on appelle arabes israéliens, qui en fait sont des Palestiniens qui vivent sur le sol israélien. Ensuite, il y a aussi les religieux. Donc entre les religieux et les Palestiniens, en fait, ça représente plus de 30% de la population. Du coup, on imagine bien que c'est pas très difficile pour les autorités comme tu dis, marquer au fer rouge les personnes qui refusent de faire l'armée. Ceci dit, selon les époques, et en particulier, il y a un énorme pic en 1982 lors de la guerre au Liban, qui, selon les dires des gens que j'ai interviewés, c'est vraiment comment dire, le Vietnam israélien, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont rendus compte qu'en fait, la guerre se faisait avec des raisons qui n'étaient pas celles qui étaient officiellement dites, et donc du coup, il y a eu énormément de refus. Et donc, en fait, le truc qui se passe, c'est que les autorités, l'armée israélienne, décident vraiment de faire du cas par cas. Alors, certains qui peuvent être, disons, un peu leader ou emblématique parce que appartenant à des partis politiques, en particulier des gens proches du Parti communiste, sont incarcérés et d'autres, disons Monsieur Tout le Monde entre guillemets, vont parfois avoir droit à un traitement de faveur du genre bon ben tu vas pas en prison si tu fermes ta gueule, si tu fais pas de politique.
Ouais.
Donc
L'idée, c'est de
en fait et
neutraliser.
ça c'est vraiment même jusqu'à aujourd'hui la politique de l'armée israélienne en général, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais quand on refuse qu'est-ce qui va nous arriver. C'est vraiment la politique du cas par cas. Et c'est souvent quand on me pose la question, alors quelles sont les conséquences d'un refus? La réponse réelle, c'est ça dépend, parce que c'est
D'accord.
vraiment la stratégie qui est utilisée par l'armée israélienne pour déconcerter la personne qui a l'idée de ne pas faire l'armée.
D'accord. Alors évidemment, toi, un de tes objectifs au travers de ce livre, c'est, j'imagine, de dire, de témoigner de ce qui s'y passe et de cette situation-là un petit peu partout. Alors tu as commencé déjà depuis un moment ta tournée avec ce livre en France. Qui vient te voir lorsque tu fais des événements où tu présentes ton livre? Est-ce qu'il y a des personnes de la diaspora qui viennent également? Et puis comment est-ce que les personnes qui viennent reçoivent tes informations?
Alors écoute, jusqu'à présent, ça s'est fait vraiment dans une bonne ambiance. Il n'y a eu aucun souci. En général, les gens qui viennent écouter ou enfin échanger aussi, hein, parce qu'il y a énormément de questions et c'est d'ailleurs très, très agréable de voir que les gens sont très curieux sur ce sujet. En général, c'est. Pour la plupart, bon, il y a beaucoup de militants, hein, de la cause palestinienne. Il y a aussi, disons, des gens, voilà, qui sont curieux de ça. Que dire? Des anarchistes, des gens moins politisés aussi, qui peuvent être intéressés juste par le côté photo, disons. Voilà.
Mais
En
les
gros,
gens, ouais, pardon.
et les questions portent souvent effectivement sur les conséquences du refus et puis aussi un peu sur qui sont ces gens-là, quoi.
Alors justement, retournons en Israël et selon toi, qu'est-ce qui va se passer à l'aune justement de ce 21e siècle un petit peu compliqué où on a effectivement, comme tu l'as dit, tendance à observer un raidissement des positions. Est-ce que selon toi, les réfugiés seront d'autant plus marqués de ce saut d'infamie dont on parlait? Est-ce que les conséquences pourraient, tu l'as dit, pour le moment, elles sont, on ne sait pas, ça peut être des fois assez différent. Selon toi, est-ce qu'on va vers un petit peu mieux, vers un petit peu moins bien, ou est-ce qu'on va vers un statu quo concernant le statut des refusniks?
Alors, bon déjà, ce que je voudrais dire, c'est que en ce moment, et disons depuis une dizaine d'années, ce qui se passe, c'est que les gens qui refusent pour des raisons politiques risquent entre quelques semaines et 2 ans de prison. Donc voilà ce qui se passe au jour d'aujourd'hui concrètement comme disons comme répression sur ce genre de d'action politique, on pourrait dire, de prison militaire, hein, c'est important parce que c'est quand même la plupart vont en prison militaire. Il y en a un juste qui a fait 1 an en prison militaire, puis 1 an en prison civile. Et je pense, en fait, aujourd'hui, si tu veux, le problème, l'évolution depuis 10 ans, c'est-à-dire il y a 10 ans, on pouvait se balader dans les rues de Jérusalem ou Tel Aviv ou Haïfa avec un t-shirt dénonçant, enfin un t-shirt pacifiste contre l'armée. Mais aujourd'hui, c'est plus possible, non pas à cause des autorités, mais tout simplement à cause de la population qui va vous gueuler dessus, vous insulter. Voilà, on peut passer un très mauvais quart d'heure si on se balade avec un badge ou un t-shirt antimilitariste. Donc, ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger. Alors, sinon, par rapport à l'actualité, ce qui se passe là-bas en ce moment, je ne sais pas si, bon, y a eu un truc hein, que tout le monde a entendu, je pense, quand Trump a décidé que
Oui,
c'était Jérusalem
Jérusalem, bien sûr.
La capitale d'Israël. Là, à ce moment-là, ça. Il y a eu des affrontements, voilà, donc je pense que ça ne peut que faire. Donc rendre les Israéliens encore plus à droite et donc les Palestiniens bon voilà enfin vous voyez
Ouais.
c'est vraiment pas super et puis en particulier qui viennent du Soudan en Israël et ça en ce moment même je crois que c'était la semaine dernière il y a eu des manifs importantes de réfugiés à Tel Aviv. Et ça, c'est un problème récurrent depuis une dizaine d'années, et avec aussi, du coup, une polarisation de la société israélienne à l'intérieur même de ça, enfin, sans parler palestinien, ça polarise beaucoup parce que les réfugiés en question, quand ils sont je ne sais pas si on m'entend
Oui,
toujours là.
on t'entend.
Et donc, du coup, même des gens pas du tout radicaux se scandalisent de ce phénomène, puisque, évidemment, y a par exemple une rabbine qui a déclaré il faut cacher les réfugiés comme Anne Frank a été cachée. Voilà,
Ah
il
ouais,
y a disons,
d'accord.
des rappels historiques qui font que tout ça bouillonne. Et. Ce qui est très intéressant, donc c'est Michel Warchavski, qui est un écrivain, qui est un Israélien, qui a écrit sur le conflit israélo-palestinien un livre, par exemple, qui est très intéressant, qui s'appelle Sur la frontière, dans lequel il explique en fait que la société israélienne, si la société israélienne n'avait pas un ennemi commun, qui donc est les Palestiniens, risquerait vraiment d'imploser. D'elle-même, parce que y a tellement de groupes différents qui s'opposent à l'intérieur même de la société israélienne que c'est très facile que la société israélienne implose. Et donc, en fait, en quelque sorte, Israël a besoin des Palestiniens pour, disons, pour sa coercition. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert petit à petit en interviewant tous ces refuseniks, parce que finalement, bah, on découvre aussi, voilà, que y a aussi bien des gens qui refusent pour des questions sociales. Donc il y a des gens qui sont tout en bas de l'échelle. C'est une société aussi qui est très, c'est un peu une société de caste, on pourrait dire, parce que les derniers arrivés qui sont les Éthiopiens, les Russes, les Ukrainiens vivent dans des conditions pas terribles, disons. Et donc se retrouvent aussi à refuser l'armée. Donc en fait, bon voilà, je me rends bien compte hein, que je dis énormément de choses en très peu de temps. Ça paraît peut-être sans doute un peu confus, je suis
Non,
désolé.
non, pas du tout, non, non, au contraire, non, c'est très bien. Nous, on aime bien ça, on aime bien les contenus denses. Après, on les réécoute plusieurs fois pour bien comprendre la situation, tu vois. Donc, pas de souci.
Mais
Mais.
bon, pour répondre à ta question, je pense que là, malheureusement,
T'es
je suis
pessimiste.
assez pessimiste. Alors, je sais, y a un aspect où on peut être un peu plus optimiste, c'est que bah, Netanyahou est dans des sales draps, c'est-à-dire que
Tout à fait.
Netanyahou risque vraiment de se faire destituer pour des raisons de non pas de non-respect des droits de l'homme, hein, pas du tout. C'est un peu
Non, mais c'est plutôt de la corruption et puis des. On a entendu des
exactement.
déclarations de son fils assez scandaleuses d'ailleurs. Hein.
Voilà, c'est ça. Disons, il s'est fait piéger par des voilà son fils qui a eu sa voix enregistrée où il disait
Exactement.
des trucs qu'il n'aurait pas dû dire. Donc voilà. Donc là où je ne sais pas. Hein, disons, mes potes là-bas, ils étaient super contents l'été dernier de voir que Netanyahou allait pas durer. Maintenant, qu'est-ce qui va le remplacer? On ne sait pas trop pour l'instant.
Et ça
Donc
peut
on
être
peut
le
pas être non
pire.
plus dans l'optimisme. Après, ce qui est terrible, en fait, c'est que quand on va là-bas, le premier truc qui saute aux yeux, c'est que effectivement, c'est la diversité, disons, du côté israélien. Et du coup, il y a un côté assez beau dans cette diversité entre justement des Éthiopiens, des Russes, des Ukrainiens, des gens d'origine allemande ou même sud-américaine ou nord-américaine. Donc il y a un peu des gens de partout. Donc ça pourrait être un endroit fort sympathique, mais alors du coup, ça l'est pas du tout et c'est bien triste.
Est-ce qu'il y a quand même encore des, j'ai envie de dire, des enclaves où il fait bon vivre? Ce que je veux dire par là, c'est que Tel Aviv a quand même toujours été, on l'appelle même The Bubble, hein, ça a quand même été toujours une ville progressiste. Haïfa également, il y a quand même des universitaires. Nous, on avait eu l'occasion de rencontrer Ilian Pappé, par exemple, qui à l'époque, justement, défendait ses thèses, comme Michel Varsavsky d'ailleurs. On avait pu à Genève aussi recevoir Avi Mograbi, le cinéaste qui. Voilà, qui a quand même un regard bien critique par rapport à l'armée et par rapport à Israël. Est-ce que ces figures tutélaires-là, elles sont encore présentes, elles sont encore relayées, ou est-ce que là aussi tu sens que du côté des médias, eh bien, il y a un déni, ou alors c'est des médias qui sont un petit peu à la solde du pouvoir?
Alors, il y a le journal Haaretz, hein, que j'imagine tu dois connaître,
Bien sûr.
qui a un point de vue colonisatrice, disons, du gouvernement actuel, et qui par ailleurs défend économiquement un projet tout à fait libéral, capitaliste. Voilà. Donc, il y a une tendance, disons, assez développée. Anti-colonisatrice parce que, disons, bah, on comprend bien aussi que même avec une vision, disons, tout ce qui est plus démocrate, de centre-gauche ou même de centre-droit, le fait qu'Israël ne respecte pas les lois internationales, c'est pas forcément une super idée à long terme, hein, donc pour l'existence même d'Israël. Donc il y a un point de vue, disons, critique sur ce que peut faire ce gouvernement, même au sein même de l'armée. Ceci dit, dans tout ce qui est dans tout ce qui est critique, voilà, cette critique existe, mais est-ce qu'elle réussit à vraiment influencer concrètement la politique au jour des décisions politiques aujourd'hui? J'ai malheureusement pas l'impression. Donc
Zut.
il y a un de mes interviewés qui doit avoir une soixantaine d'années, qui donne son point de vue, parce que voilà, parce que dans mon livre, si vous l'avez sous les yeux, vous pourrez voir que il y a des photos, hein, mais il y a aussi beaucoup de textes, et donc il y a un des interviewés qui a une soixantaine d'années et qui raconte son histoire et qui ensuite donne son point de vue et qui dit en fait tant qu'Israël ne respectera pas les lois internationales, on risque fort de finir avec d'en finir avec ce pays à un moment ou à un autre. Et puis il dit aussi la différence qu'il y a entre maintenant et disons les années 70-80 où les travaillistes étaient au pouvoir, c'est que aujourd'hui en fait tout ce que faisaient les travaillistes en cachet, aujourd'hui la droite en est fière et le montre aux médias. Avant, c'était caché des médias. Aujourd'hui, c'est montré comme une fierté justement pour plaire à son électorat, quoi.
Ouais, y a ce côté décomplexé comme ça qu'on retrouve un peu de plus en plus
Voilà.
un peu partout. Hein. Je
Exactement. Et
voulais.
puis là, bon, bah, ça a des conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'explique donc ce refuse-nique, c'est que lui, en fait, il explique que les Israéliens ont été très surpris par la première intifada, parce que justement, ils n'étaient pas au courant de la spoliation des terres, de la spoliation de l'eau, de la destruction des maisons, enfin tout ce qu'a fait l'État israélien depuis très longtemps. Et donc en fait, la première intifada a été prise comme vraiment une surprise pour beaucoup d'Israéliens.
Ouais. Je voulais juste, on va arriver doucement à la fin de cet entretien, mais t'interroger par
On
rapport. Tu,
peut...
oui, dis-moi.
Pardon? J'ai pas entendu.
Oui, je disais qu'on arrivait doucement à la fin de l'entretien. On en a encore pour 5 minutes si tu es encore disponible 5 minutes.
Tout à fait.
Ah, bah génial. Écoute, je voulais. Effectivement, parmi les photos du livre, on a un jeune hein, qui. Effie Brenner, hein, qui a 18 ans en 2009. Qui est à Tel Aviv et qui justement a un t-shirt Anarchist Against the Wall. Alors dis-moi, tu l'as revu depuis et puis qu'est-ce qu'on devient quand on est un anarchiste contre le mur en Israël et qu'on a 18 ans en 2009? Qu'est-ce qu'on devient eh bien, 8, 7, 8 ans après?
Alors, c'est pas vraiment le meilleur exemple,
Ah!
malheureusement. Des anarchistes contre le mur, j'en connais plusieurs, mais lui, alors lui, c'est un peu un cas à part. Parce que, je ne sais pas si bon, je l'ai interviewé une première fois en 2009 et puis une deuxième fois en 2014, parce qu'il a retourné sa veste, je pense, par pression familiale, hein, tout
D'accord.
simplement.
Ouais.
Il avait besoin d'être entouré, j'imagine. Mais ceci dit, d'autres anarchistes contre le mur, les fondateurs, les gens qui étaient à fond, continuent à militer là où ils peuvent, à soutenir les refuse-niques, à aller à des manifestations. Par exemple, quand j'y étais en 2017, en avril 2017, il y a eu une grève de la faim des prisonniers politiques palestiniens. Et donc il y a eu des manifestations pour les soutenir. Et voilà, il y avait pas mal d'Israéliens qui étaient là aussi. Donc voilà, ça n'en finit pas. Après, quand on a 18 ans en 2009 et qu'on a été anarchiste contre le mur et qu'on veut continuer sa vie, la plupart, il y en a beaucoup, énormément, qui sont partis du pays en fait. Beaucoup sont partis, par exemple, à Berlin, parce que l'Allemagne donne facilement des bourses aux étudiants israéliens. Donc beaucoup sont installés à Berlin. D'autres se sont rangés, ou comme lui, carrément, comme Effie. Bon, c'est un peu le seul, hein, parmi les 50 que j'ai interviewés, qui a réellement tourné sa veste, on pourrait dire.
D'accord. Dis-moi, Refusnik, pour toi, c'est l'aboutissement de quelque chose dans ta vie à toi, dans ton parcours, ou est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce que tu penses que, voilà, dans quelques années, tu te replongeras là-dessus, tu referas un point de la situation, pourquoi pas même une suite, ou pas?
Alors, c'est un peu un aboutissement parce que bon, bah voilà, 10 ans de boulot quand même, enfin,
Quand
ou en
même,
tout
ouais,
cas 10 ans
effectivement.
à penser à ça. Et donc, d'une part, à cause de mes origines juives, et puis parce que le militarisme, c'est quelque chose qui me débecte particulièrement. Donc voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles je me suis intéressé à ce sujet. Pour résumer, hein, c'est expliqué un peu plus en détail dans l'introduction du livre. Par contre, c'est sûr que j'ai découvert et j'ai acquis une certaine connaissance de la société israélienne qui peut-être, dans un futur plus ou moins proche, m'amènera à retravailler sur ce sujet ou voilà. En tout cas, bon, dernièrement, j'ai davantage finalement travaillé sur la société palestinienne. Donc voilà, donc c'est parce que voilà, je préfère apprendre des choses
Oui, que de
que
tourner en... Oui.
que rester
Focaliser
voilà.
sur... Là, je comprends. Ouais. Martin Barzilay, merci beaucoup en tout cas de nous avoir dit toutes ces choses-là. Je voulais juste savoir maintenant, donc tu es en tournée actuellement, où es-tu et puis vers les prochaines dates, où seront-elles? Est-ce qu'un
Alors,
coude en Suisse est prévu également?
en Suisse, c'est prévu. Alors, je n'ai pas encore la date. Peut-être que si vous amenez le micro vers l'InfoKiosque, vous en saurez davantage que moi.
Ben, parce que justement, l'InfoKiosque, il y en a en tout cas, enfin, il y en a deux principaux, il y en a un à Malagnou, puis un ici au Silure où on est. Je ne sais pas si toi tu sais déjà dans, à quel endroit.
Je ne sais pas encore à
Tu
quel
sais pas
endroit, je
encore.
n'ai pas encore la date, mais ça ne devrait pas tarder.
Ok.
Sinon, je suis à Bruxelles vendredi prochain, donc le 9 mars. Où est-ce que je vais être encore? Écoute, pour l'instant, ça se limite à ça. J'ai peur de dire des bêtises. Ah si, j'ai la chance d'être invité en Corse en avril
Oh, sympa.
et aussi en banlieue parisienne en mai. Et puis, c'est une exposition de plusieurs photographes qui ont photographié les adolescents. À Cergy-Pontoise, en banlieue parisienne, en juin. Et là, j'ai pas la liste sous les yeux, donc j'ai
Ouais.
peur d'oublier. Mais sinon, actuellement, je suis à Paris.
Ok.
Voilà.
Et puis, est-ce qu'on peut suivre cette actualité sur un site, une page Facebook ou peut-être sur le site des éditions Libertalia également?
Ouais, voilà, sur le site des éditions Libertalia, normalement, tout est là sur donc la page du livre Refusnik. Voilà, ouais. J'ai pas créé une page Facebook avec les différentes rencontres. Ceci dit, j'ai fait un hashtag sur Twitter, Refusnik. Vous pouvez trouver ça par là. Et puis voilà, ouais, je suis visible. Donc si vous tapez Martin Barzilay, vous allez facilement trouver mon Twitter, mon site internet,
Oui,
et voilà.
effectivement, ben nous, en tout cas, on se réjouit de te rencontrer certainement ici à Genève.
Mais moi
Et
aussi, moi aussi.
puis, on va le rappeler, alors effectivement, le site des éditions Libertalia, c'est très simple, c'est édition au pluriel, Libertalia, libertalia.com. Effectivement, il suffit d'ajouter slash et puis Refusniks au pluriel, et là, on tombe sur la page du livre. On peut acheter le livre en ligne, et puis il y a un certain nombre d'informations, la quatrième de couve, tout ça, tout ça. Donc, on peut là trouver les informations qu'il faut. Je te remercie beaucoup.
Bah
Martin.
c'est moi, je merci de m'avoir invité dans votre magnifique émission où j'ai pu réécouter les Berru, je crois.
Oui, absolument, on aime bien ça. Eh ben, écoute, je te remercie et puis je te souhaite bon courage pour la suite et de toute façon, on va se retrouver certainement au moment de ton passage à Genève.
Tout à fait, tout à fait. Et ben bonne suite d'émissions et merci encore et à bientôt du coup.
Ça marche. Merci beaucoup à toi et à bientôt. Ciao. Voilà, alors, eh bien, parfait, parfait, nous allons faire une petite pause musicale, reprendre notre souffle, et puis nous allons continuer notre émission. On le précise, nous sommes ensemble jusqu'à 17h, en direct depuis le Silure. Le Silure, c'est un espace autogéré qui effectivement contient l'InfoKiosque, ici à Genève, ça se situe au 3 Chemin des Saules, c'est juste à droite du Café Ethno, en arrivant depuis le pont sous terre. Il y a un tram, c'est le tram 14, et c'est l'arrêt Palladium, pour les personnes qui souhaitent s'y rendre, en tout cas pour nous rencontrer nous maintenant, et puis surtout pour assister à l'exposition qui aura cours juste derrière, exposition dont on va parler dans la deuxième partie de l'émission. Pour le moment, alors on a terminé cette première interview, nous allons recevoir les personne du nouveau comité de Fréquence Banane Genève, incessamment. Nous allons parler un petit peu radio, radio libre, radio estudiantine avec elles et eux. D'ici là, on se fait une petite pause musicale, deux chansons, et on revient juste derrière. On te le rappelle, auditrice, auditeur, si tu souhaites interroger nos invités ou nous faire un petit mot doux, tu le fais à l'adresse suivante, info@libradio.org, ou alors tu te logues dans la page Facebook de l'émission. C'est La Comète à la Banane. On y va avec un peu de musique et on revient derrière.
Monsieur le Président, Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.